L'idée qu'on voulait vous proposer, c'était avant même que nos intervenants puissent présenter ce qu'ils avaient préparé, mais de repérer les questions principales de l'Assemblée. Parce qu'on est a priori dans un milieu où relativement convaincu des dangers du nucléaire militaire, enfin, sauf surprise qu'on veut. Mais si on part de cette hypothèse qui est vraisemblable, la question c'est de savoir quelles sont, vous, les questions prioritaires qui vous intéressent, de façon à ce qu'aussi bien Pauline que Patrick puissent en tenir compte. Par exemple, si je pose la question de la table ronde qui est la dissuasion nucléaire ni morale ni efficace, ouvrant le débat, est-ce que, par exemple, dans cette assemblée, il y a des personnes qui pensent que la dissuasion nucléaire est morale? Première question. Oui.
Je pense qu'elle est morale. C'est pas du tout, je réponds pas du tout à la question, bien sûr qu'elle n'est pas morale pour moi.
Oui.
Mais moi, il me semble que la question n'est pas forcément bien posée, parce que la dissuasion nucléaire est un aspect de la défense. Le problème actuel qu'il faut se poser, c'est comment on se défend. Est-ce qu'il faut aller dans le sens du réarmement massif de l'Europe et de la France, etc. Ou est-ce qu'il faut réfléchir à d'autres formes de défense?
Ben voilà, c'est un bon exemple justement de questions qui se posent dans l'Assemblée, où vous dites, bon, en gros, que la dissuasion nucléaire soit immorale, ça, en gros, ça paraît une évidence, mais par contre, du coup, la question du comment on se défend, elle, c'est une vraie question. Donc on va prendre comme ça les questions qui vous paraissent essentielles, de façon à ce que déjà Pauline et Patrick puissent les intégrer dans leur propre présentation.
Je vous invite du coup à prendre un micro pour, si vous voulez vous le faire passer, pour comme ça les questions seront enregistrées aussi.
Voilà. Alors, d'autres personnes qui souhaitent justement introduire des questions qu'on aimerait traiter dans le débat, allez-y.
Oui, j'interviens à 16h30 dans la table ronde sur le nucléaire civil.
Oui.
Je conclue en principe. Ce qui me fascine assez, c'est la relation entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Quand on parle de nucléaire civil, on ne parle jamais du nucléaire militaire. En particulier, un très bon exemple actuellement, c'est quand on parle des tout petits réacteurs, ce qu'on appelle les SMR, dans des conférences. On ne fait jamais référence aux SMR qui existent depuis 80 ans bientôt, puisque ce sont des fameux réacteurs de propulsion marine. Donc, est-il nécessaire d'avoir un nucléaire civil pour avoir un nucléaire militaire et inversement? La relation entre les deux me semble très, très proche, et voilà, c'est la question que vous pourrez vous poser.
Très bien. Et puis, en plus, normalement, devrait nous rejoindre Thierry Salomon, qui est un des fondateurs de Negawatt et qui travaille beaucoup justement sur la question de l'interface entre nucléaire civil, nucléaire militaire. Et Pauline, c'est aussi une des questions qu'elle devrait aborder. Ok, est-ce qu'il y a... Allez-y. Pardon. Prenez un micro.
Oui. Ah, pardon. Oui, oui.
Ah, oh, pardon. Oui, oui.
Non, excusez-moi. Moi, je me pose la question de l'efficacité, parce qu'elle est, présentée comme évidemment efficace. Donc, ma question, c'est, est-elle vraiment efficace? Et le corollaire, bien entendu, de la dangerosité suprême. Enfin,
Ok, très bien. Faites passer le micro.
Moi, ma question, c'était le nucléaire civil en cas de conflit. Comment il va être exploité?
Donc là, c'est typiquement le genre de question que Pauline abordera aussi. Hein. Qui d'autre souhaitait, dans le panier des questions préalables? Ah ben voilà Thierry qui nous rejoint. On fait, Thierry, un petit exercice préalable, parce que comme on est parti de l'hypothèse, peut-être fausse, qu'on est dans un milieu relativement convaincu, en tout cas des critiques adressées au nucléaire militaire, plutôt que de se convaincre entre nous-mêmes, de repérer les questions prioritaires qu'on aimerait voir traitées. Par exemple, il y en a une sur l'interface entre nucléaire civil, nucléaire militaire, et je disais, bah tiens, on aura aussi la chance d'avoir Thierry Salomon qui travaille beaucoup ces questions et qui viendra compléter, parce que c'est un des volets que Pauline traitera. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions comme celles qui ont été évoquées ou complémentaires ou différentes que certaines ou certains d'entre vous souhaitent poser? Bon, on en a déjà un paquet assez lourd hein, avec ce qui a été dit. On attend la... Ah ben voilà. On va avoir y compris la solution pratique pour passer des diapos. Il y a encore quelques personnes qui sont en train de nous rejoindre. Ah oui, il faut peut-être...
Pardon.
Il faut changer de place. Il n'y a pas de problème, vous nous dites.
Hein. Merci pour votre patience.
Oui,
si
ça.
C'est pas le cas, si ça marche pas, c'est pas problème.
Ça, c'est bien. Ça, c'est le nucléaire militaire avant usage. Donc, il y a encore des belles photos de vacances. Après, c'est...
En attendant, je peux simplement dire juste quelques mots.
Il faut pas
oui.
En attendant. Hein, pour vous mettre l'eau à la bouche, peux-tu vous dire quelques mots?
Dans le micro.
Dans le micro, voilà. Donc vous mettez l'eau à la bouche, pour vous dire quelques mots. La question, ça marche? Allahu Akbar. Alors voilà, j'ai... Et vous me donnerez le truc, mais je pourrais peut-être pas regarder. Bon.
Ah oui,
ouais,
vous
non.
Vous mettre sur le côté.
Ouais. Bon, c'est pas grave. Ouais, je vais juste dire en réponse merci, hein, parce que moi c'est très intéressant. Dans un, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, voilà, on est un peu entre gens qui pensons le monde et sa transformation. Patrick a mentionné la situation politique en France. Moi, ce que j'observe, c'est que la question de la dissuasion nucléaire, du coût que ça implique et des dangers que ça suppose, n'est absolument débattue par personne. C'est quand même extraordinaire. À raison de 6,7 milliards dans la loi de programmation militaire actuelle. C'est quand même extraordinaire. En sachant, comme je vous le dis, dirais que moral, ce n'est pas le problème, la moralité, c'est illégal. Au regard du droit international, donc la France viole ses obligations parmi les plus impératives juridiques internationales. Ça, c'est un sujet quand même. C'est un sujet qui n'est jamais abordé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de débat public. Donc que vous soyez là est quand même intéressant. Et Patrick, en commençant tout à l'heure, quand on a, au moment du déjeuner, dit, bon, la plupart des gens connaissent. Mais voyez, vous n'avez pas posé la question du droit. Vous n'avez pas abordé la question, oui, dangerosité, le mot a été évoqué, mais on n'a pas vraiment parlé des catastrophes que ça implique, c'est-à-dire existentielles, c'est-à-dire vitales pour le vivant et la planète. C'est quand même extraordinaire. Qui peut, dans le débat français, il y a très peu de débats, et d'abord parce que c'est mal connu, des conséquences d'une guerre nucléaire, et pourtant on est au bord de ça, immédiatement, maintenant. C'est quand même extraordinaire qu'il y ait... Les parlementaires de tous bords soutiennent l'arme politique, celle de la puissance par excellence. Et comme vous l'a dit, monsieur, la défense. Mais de la défense contre qui, premièrement? Et par rapport à quoi? Vous vous sentez en sécurité d'être dans le continent le plus exposé aux armes nucléaires par la quantité qu'ils ont et par la puissance de ces armes? Et quand vous avez un président, je suis suisse, mais vous avez un président de la République qui menace la Russie. Ouais, je veux dire, moi, je me sentirais quand même comme je le vois, je me sens quand même en danger. Par rapport à ça. Donc, simplement pour vous répondre sur nucléaire civil, nucléaire militaire, il n'y a pas de nucléaire militaire s'il n'y a pas de nucléaire civil. Voilà, bon, je pense que Pauline vous racontera ça mieux que moi. Quant à la protection des installations, le droit international humanitaire interdit des attaques contre les forces dangereuses. Qu'est-ce que c'est les forces dangereuses dans le droit? L'article 54, 5, pardon, 7 du premier protocole additionnel aux 4 conventions de Genève, c'est les installations nucléaires ou les barrages qui peuvent développer, provoquer naturellement des catastrophes terribles pour la population civile qui doit être protégée en situation de conflit armé. J'en ai terminé pour répondre un petit peu, et je parlerai naturellement des armes nucléaires, leur côté obsolète, inutile, dangereuse, est absolument illégal. Bon, voilà. Alors, on peut voir ça?
Oui, ben voilà, c'est projeté.
Ah, ben là. Alors donc, je vais commencer par présenter l'organisation que je représente ici. Ça, bon, c'est pas très. Ça ira très vite. Hein, comment je fais? Voilà. Ça ira très vite. Alors, c'est pour ça que je dis morale efficace. Je n'ai pas décidé du titre, mais elles ne sont morales. Bon, chacun peut avoir un avis, mais elles sont illégales. Elles ne sont certainement pas efficaces. Elles sont particulièrement dangereuses pour la vie. Elle se donc une question absolument existentielle, surtout quand on sait qu'on est aujourd'hui au bord de l'abîme. Et si vous ne le savez pas, je vous en informe. Et je ne suis pas particulièrement sectaire, ni non plus complotiste. Je me présente aussi, j'ai travaillé pendant des décennies au Comité international de la Croix-Rouge, qui est le gardien du droit international humanitaire, qui a un mandat de protection et d'assistance des personnes dans les situations de conflit armé, le développement du droit, etc. Donc j'ai beaucoup été impliqué dans le développement du droit international humanitaire, et en particulier sur les questions suivre les conférences d'examen du traité de non-prolifération, aussi bien que ce qui a abouti après à l'élaboration et ensuite à l'adoption et à l'entrée en vigueur du traité d'interdiction des armes nucléaires que la France refuse même de considérer, d'entendre parler ou d'assister comme observateur aux conférences d'État parti chaque année. Donc c'est la question juridique qui est quand même intéressante. Voilà. Voilà. Alors IDN, c'est une organisation qui a été créée par Paul Quillès quand il était ministre de la Défense, qui est présidée par le monsieur que vous voyez là au milieu, qui est le général 5 étoiles Bernard Norlin, qui a commandé les principales bases aériennes de la force aérienne nucléaire et qui a été aussi à la tête de la force de dissuasion nucléaire française et qui est un militant acharné pour l'élimination des armes nucléaires et leur interdiction. En connaissance de cause. Voilà, donc je viens de parler. Notre objectif, c'est de promouvoir un monde sans armes nucléaires, sensibiliser et mobiliser sur le sujet, produire une expertise indépendante, j'espère que je pourrai le faire. Et on a créé un observatoire des périls planétaires en associant toutes les crises existentielles et liées entre elles que nous connaissons aujourd'hui, en commençant par la crise climatique, l'intelligence artificielle, il y avait Cédric Villani hier ici, et bien d'autres sur les inégalités, les conflits armés. Donc, tout est étant lié parce que l'un provoque l'autre. S'il y a une crise climatique, il y a des conflits armés et puis des conflits armés qui peuvent se terminer en attaque nucléaire. On le voit aujourd'hui. Vous connaissez peut-être, vous avez des exemples en tête. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et l'utilisation de toute détonation d'armes nucléaires provoque un désastre qui ne permet plus la vie sur Terre et aussi, même si ceux qui survivent ne pourront plus y vivre. L'hiver nucléaire et puis bon, toutes les transformations que ça implique. Il faut en avoir conscience. Je suis frappé quand je suis en France d'entendre des gens parler de guerre comme si c'était formidable, ils n'ont aucune idée de ce qu'est un conflit armé, ni ce que c'est qu'une victime de conflit armé, ni des conséquences que peut avoir une escalade jusqu'à une utilisation d'armes nucléaires. Quand il y a, comme c'est le cas de la France, il n'y a pas une doctrine de first use, de no first use plutôt. Donc, une attaque préventive même, c'est la doctrine militaire française en la matière. C'est absolument terrible. Bon. Alors, nos objectifs, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est de participer avec vous à cette séance. Informer et mobiliser la société civile. Il n'y a pas de débat public, il n'y a pas de débat parlementaire, il n'y a pas de parti qui majoritairement remette en cause la dissuasion nucléaire. Et donc la possession et la menace d'utiliser l'emploi et la menace d'emploi d'armes nucléaires. Il n'y a pas. Des individus, il y en a parmi les écologistes, en particulier des communistes. Mais autrement, non. C'est absolument sidérant dans le monde dans lequel on est aujourd'hui et le danger que nous encourons tous. Et donc, voilà, on essaye de contribuer à marteler. Alors, je sais que je suis devant un public intéressé qui probablement partage ses vues, mais je me rends compte, vous n'avez pas parlé ni de droits, ni de conséquences catastrophiques de l'utilisation et de la menace d'utilisation d'armes nucléaires. Voilà, donc, bon, je pourrais parler de l'Observatoire des périls planétaires, mais ce n'est pas le sujet. Je vais aller vite sur le nucléaire avec quelques slides sur le nombre. Les pays, les 9 pays possesseurs de qu'on appelle des pays dotés d'armes nucléaires, les fameux 5 premiers avant l'adoption du TNP en 68, dont la France, et puis 4 autres, que sont l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Israël, on ne parle jamais, parce que Israël, bon, ben, on dira, les méchants iraniens qui n'ont jamais eu d'armes nucléaires, ni même les moyens de s'en procurer, tout le monde le sait, mais on diabolise l'Iran. Je ne suis pas le porte-parole, alors que les choses soient claires, mais on ne parle jamais qu'Israël possède des armes nucléaires, tout le monde le sait, ils ne sont même pas partis au TNP, donc voilà. Ensuite, voilà un petit peu l'état des lieux. Hein, alors évidemment, par rapport à 1983, en plein milieu de la guerre froide, où on était plus de 80 000 armes nucléaires, surtout aux mains des soviétiques et des américains. La France a toujours été un petit peu en dessous de 300, aujourd'hui 290, etc. Bon. Mais autrement, voilà, c'était. Mais parmi celles, on a réduit, certes, mais il en reste quand même. Et chacune a des puissances de milliers de fois Hiroshima. Donc, il faut quand même être un tout petit peu précautionneux. 9600 sont opérationnels et 1800 ogives en état d'alerte permanente, c'est-à-dire prêtes à être déclenchées en rien de temps, par toujours une personne. Et en France, c'est préventif même, y compris par rapport à une agression supposée, conventionnelle. Voilà. Donc vous voyez un petit peu les 9 pays dotés possède une capacité destructrice 146 500 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Alors, c'est pas un sujet ? C'est pas un sujet politique en France, ça ? C'est quand même très étonnant. Il procède à une augmentation et une prolifération verticale et une modernisation de leurs arsenaux, prolifération verticale, alors que le TNP l'interdit, la prolifération. Verticale, bien sûr, horizontale. C'est-à-dire d'autres pays s'en doteraient, en se disant « c'est très important pour la sécurité, monsieur ». Donc c'est une incitation à la prolifération, parce que les autres vont dire ben, « c'est ce que vont faire, ce qu'a fait la Corée du Nord, c'est ce que Kadhafi aurait peut-être dû faire pour ne pas se faire massacrer la figure, etc. etc. » Combien de fois on entend « si l'Ukraine avait eu des armes nucléaires, ils n'avaient pas rendu à la Russie, eh bien ils auraient été en mesure de… » C'est comme s'il y avait une croyance forte que ça marche, que ça a une moindre efficacité. Et techniquement, je ne suis ni militaire ni scientifique, mais je sais par des militaires ni scientifiques que c'est faux, c'est obsolète, ça ne marche pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, si ça marchait, elle aurait peut-être été déjà déclenchée nombre de fois dans certains contextes. Voilà. Et puis, il y a une menace de reprendre des essais nucléaires, dont Pauline dira quelques mots aussi tout à l'heure, en violation totale du droit international, donc des obligations parmi les plus impératives, c'est-à-dire du traité de non-prolifération, qui oblige à entrer dans une négociation en prenant des mesures aussi efficaces, de bonne foi, pour négocier un traité de désarmement général et complet. C'est tout le contraire qui se passe. Et de le faire dans le cadre d'une durée déterminée. Or, aujourd'hui, le traité a été transformé pour que la possession des armes soit à durée illimité. Ah, mais parce qu'on en a besoin dans le contexte sécuritaire actuel. Et ça marche, les gens entendent ça, ils disent « Ah bon, oui, on se sent mieux protégé. » Les Allemands disent « Ah ben tiens, on va faire appel à la France ou les Britanniques pour nous protéger. » En toute violation des obligations internationales parmi les plus impératives du droit international. Voilà. Je vous fais une liste des pays qui possèdent les armes nucléaires et du nombre d'essais auxquels ils ont procédé, soit atmosphériques, soit sous-marins. Atmosphériques en France, c'était le Sahara algérien, Reagan déjà, vous vous souvenez, et puis la Polynésie, voilà, avec le nombre de d'essais qui ont été. Donc ça représente quand même plus de 2000 essais dans le monde, dont les premières victimes ont été les populations aborigènes. indigènes, que ce soit au Kazakhstan, Kazakh, que ce soit aux îles, les Polynésiens des îles Marshall, Kiribati, ou polynésiennes françaises, ou dans le Negev, et les Bédouins du Negev israélien. Donc on est toujours là-dedans, parce que ce n'est pas nous, c'est des indigènes, c'est des sous-hommes en gros, ce n'est pas des gens comme nous. Et on va faire ça, on va faire péter ça au milieu de nulle part avec les conséquences sans qu'elles ne soient jamais reconnues, sinon par la loi Morin, qui vise éventuellement à indemniser une toute petite partie des Polynésiens et pratiquement personne des Berbères algériens. Mais il y a des dossiers que Pauline pourra dire ça beaucoup mieux que moi. Donc la justice nucléaire et l'obligation de réparation est évidemment sur la table. Voilà, un petit peu, ce peu, bon, je ne vais pas développer trop parce que j'en ai déjà dit pas mal, avec un coût évidemment de cette force de dissuasion, vous voyez, sur la loi de programmation militaire actuelle. C'est absolument monumental. Avec ça, vous payez quand même du développement durable, des objectifs de développement durable, vous payez des hôpitaux, vous payez des écoles, et vous, faites autre, et vous construisez la paix, la sécurité collective, mondiale. Qu'est-ce que pèsent les intérêts nationaux face à l'intérêt général humain et de la vie et de la planète? Je n'ai jamais compris comment ça n'est pas un débat. Et puis, le Suisse de Genève, face à la menace que vous produisez, il ne va rien décider, mais il va s'en prendre plein la figure. Mais le Zimbabwéen aussi. Et l'Argentin aussi. Tout le monde est pris comme otage, finalement, pour de ce genre de politique. Très peu de députés et sénateurs, mais quelques-uns commencent à parler et voilà. Et on est de temps en temps invités à l'Assemblée nationale pour parler, etc. Le traité d'interdiction des essais nucléaires n'est jamais entré en vigueur. Le traité d'interdiction, sauf que il existe un secrétariat, une organisation qui, elle, avec 330 et quelques stations de par le monde, réparties de par le monde, examine s'il y a ou non des essais nucléaires pour pouvoir ensuite éventuellement les dénoncer, etc. Donc il y a une exigence d'interdiction absolue des essais nucléaires, un moratoire avait été négocié, mais qui est aujourd'hui remis en cause éventuellement, pour ce que j'en entends. Voilà. Donc, c'est un sujet que j'aborderai peut-être, mais on a entendu, monsieur, les transferts d'armes. Vous voyez, le président Macron a proposé d'européaniser la dissuasion nucléaire française. Outre le fait que c'est illégal et que ça ne sert à rien, et que c'est obsolète, mais aussi, il y en a d'autres qui le veulent. C'est donc un acte de prolifération. C'est donc totalement interdit par le droit international et par le traité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est voilà, je ne veux pas développer plus que ça. Et puis, avec des contradictions, le président Macron dit d'un côté qu'il craint, qu'il a de la sympathie et de l'empathie pour les victimes des essais, et puis le danger de ses armes, tout en disant, il n'y a encore pas très longtemps, au mois de juillet, qu'il faut être craint, et que pour être craint, il faut être puissant. Donc, défendant l'utilité, la nécessité, la puissance de ses armes. C'est une contradiction absolument phénoménale. Donc, il piétine les principes de sécurité collective, de coopération internationale et d'égalité souveraine entre les peuples. Bon, vous pouvez voir, je ne vais pas développer non plus parce que je vais me consacrer mon temps à parler de dissuasion nucléaire tout à l'heure, mais de ce que représente la prolifération horizontale et verticale, au fil du temps, il est vrai qu'il y a eu une diminution du nombre, une augmentation des puissances, de la puissance des armes. Il y a eu une modernisation. Il y a eu aussi, face à l'évolution des techniques, une mise en danger du monde parce que la fragilité de ces armes, par rapport, y compris par exemple à la cybersécurité et à l'utilisation d'intelligence artificielle sur tout ce qui relève de la commande et le contrôle de ces armes. Donc, qui peuvent être déclenchés à distance par des adversaires ou par des groupes armés. Voilà. Donc, on est dans un moment où la prolifération est absolument évidente, en particulier de la part des États dotés. Bon, là, c'est une courbe qui permet de voir la diminution du nombre. Le plateau d'Albion pour les vecteurs sol-air, sol-sol, ont été démantelés. Voilà, mais on continue d'avoir les sous-marins et les mirages qui sont les instruments de cette dissuasion. Oui, bon, voilà. Je crois que il faut bien comprendre entre nous de quoi on parle quand on parle d'armes nucléaires. On parle à la fois d'une question, je l'ai dit, juridique, sur la possession, l'emploi et la menace d'emploi. On parle de questions donc de non-prolifération et de désarmement, du TNP, et on parle des questions de contrôle des armes, donc des traités principalement bilatéraux entre la Russie aujourd'hui et les États-Unis. Plus aucun, sauf un, n'est en existence aujourd'hui. Et celui qui est encore en existence aujourd'hui, qui s'appelle le New Start, prend fin en février de l'année prochaine et sans perspective actuelle de continuation. Donc il n'y a plus de mécanisme de contrôle, il n'y a plus de mécanisme de dialogue. Nous sommes donc à la merci, y compris sur les armes à medium range, de portée intermédiaire. Le traité a été dénoncé par la Russie et par les États-Unis. Donc l'Europe est en plein sur le champ d'un pacte d'armes de cette nature-là, c'est-à-dire entre 5000 et 1000 km. 500 et 1000 kilomètres. C'est absolument extrêmement dangereux. Mais simplement pour vous dire quelques mots à ce sujet-là. Voilà. Les accords bilatéraux, je l'ai dit, ils ont tous été dénoncés par les uns et pour les autres, et par les autres, sauf celui que j'ai mentionné. Tout ça. Sauf le New Start. Et donc, il n'y a plus de surveillance. Il n'y a plus de vérification. Il n'y a donc plus de confiance. Comment ? C'est New Start.
Non, mais c'est pourquoi ?
Oui, pourquoi ?
Eh bien, c'est un... Bon, qui dit New Start dit ancien Start, qui a déjà été dénoncé. Strategic Treaty on Arms Regulation. Bon. Et donc, qui permet, comme avec Open Sky, le traité Open Sky, de vérifier que les limitations qui sont mises pour le nombre et la puissance de ces armes, soit contrôlé, vérifié par l'autre partie. Par tous les moyens, par les moyens satellites, par les moyens d'aviation, comme par les moyens d'inspection. Bon. Donc, on est là, les inspections ont été suspendues, comme je l'ai écrit là.
Oui, mais si je relais la question, c'est pourquoi ? Pourquoi cette réponse ?
Ah, pourquoi ?
Pourquoi ?
Mais, bon, moi, je ne prends parti pour les uns, ni pour les uns, pour les autres, puisque je plaide le désarmement total et l'élimination de ces armes. Mais parce qu'on est dans un système qui a été... On est dans un monde où la confiance a été rompue par les uns et par les autres. Pour l'essentiel, c'est les Américains, le JCPOA, l'accord qui avait été négocié par les P5 plus l'Allemagne avec l'Iran, a été dénoncé par Trump lors de son premier mandat, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, c'est un accord qui permettait, disons, à tout le monde de se sentir à peu près à l'aise, sauf que Trump l'a dénoncé. La plupart des autres traités que je mentionne là, c'était le président Bush Jr. et puis Trump qui les ont dénoncés. Et puis l'accord sur les essais nucléaires était dénoncé par Poutine il y a quelques années parce que les États-Unis l'avaient dénoncé. Donc, de seul coup, les essais nucléaires peuvent être pris par les uns comme par les autres. On est dans un moment extrêmement fragile. Ceux les plus anciens qui ont connu la guerre froide, on vivait un moment de détente autrement plus sécurisé qu'aujourd'hui, beaucoup plus. Il y avait des dialogues, il y avait ce qu'on appelait un téléphone rouge.
Juste, Patrick, parce que comme on avait convenu à peu près de 20-25 minutes et on est à peu près à ce temps-là, vous pouvez peut-être conclure cette partie de votre intervention,
oui.
Puis ensuite on rebondira dans les questions, dans le débat.
Je peux dire quelques mots peut-être de la dissuasion nucléaire avant de... J'ai dit quelques mots du droit, ça vous va ou pas ? Ou bien je passe le micro ?
Le mieux, c'est de le mettre sur le menton.
Ah, d'accord. Alors, bon, je pourrais vous distribuer mon texte parce que comme ça, vous pourrez en savoir un peu plus. Sur la dissuasion nucléaire, Je peux dire, je vais dire trois pages et puis j'arrête. Non, parce que j'avais pensé, j'avais écrit un texte, je ne voulais pas rentrer comme ça dans, sur ce sujet-là comme ça. Seule la chance a permis à ce jour d'éviter le pire. Et cette chance ne peut pas durer. Elle ne peut que tourner. On n'a pas le droit à l'erreur. Ce serait fatal pour l'humanité, elle vivant. Plus d'armes signifie plus de risques en ces temps d'instabilité et de tensions géopolitiques entre puissances dotées. D'où la nécessité vitale de construire un monde sans armes nucléaires et libre d'armes nucléaires et débarrassé de la menace de les utiliser, ce qui est illégal et intenable. Il n'y a pas d'argument éthique, moral, c'est immoral, juridique, c'est illégal, à leur existence et à l'annihilation totale de notre monde, à la destruction de la civilisation. Il n'y a pas de raison historique non plus, puisque nous savons que ce ne sont pas seulement un carnage effroyable et criminel d'Hiroshima et Nagasaki qui marque le début de l'ère nucléaire et dont on a commémoré le 80e anniversaire en août dernier, mais que c'était bien l'entrée en guerre de l'URSS qui a permis la reddition du Japon. Cette ère a commencé donc sur un crime et un mensonge qui n'a cessé d'être répété. Le concept de dissuasion nucléaire a été bâti sur un mythe et la peur d'un tel carnage. Il est vrai que ces armes essentiellement politiques sont essentiellement le symbole de prestige ou d'un outil de puissance, mais aussi de menace pour, dans les circonstances extrêmes, comme on dit entre guillemets, avancer des intérêts diplomatiques et militaires, disons aussi militaristes, en prenant le risque du pire et en stimulant la prolifération. On s'interroge aussi sur l'absence de vrais débats publics, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou parlementaires à son sujet, et le manque de données publiques. Il y a là une forme d'omerta, ni sur les risques encourus et leurs victimes, et pourtant la majorité des citoyens se disent opposés à ces armes et à leur utilisation. Rien n'est dit sur les nombreux accidents et incidents répertoriés depuis 1950, les 6 bombes perdues jamais retrouvées, l'accident d'avion avec leurs bombes, les sous-marins nucléaires qui ont causé la mort de centaines de personnes et les contaminations radioactives, sans parler de centaines de milliers de victimes des essais nucléaires et explosifs dont parlera Pauline. Le seul choix logique et sûr est bien d'interdire et d'éliminer ces armes de destruction. Tout est en jeu dans cette bataille. C'est pourquoi elle est existentielle. Le désarmement nucléaire est un monde sans armes nucléaires et un monde sans armes nucléaires ne sont donc pas une utopie, mais une garantie durable contre les risques que représentent la possession, l'utilisation et la menace d'utilisation des armes nucléaires, interdit par le droit international humanitaire. Je précise qu'il n'y a pas... La légalité d'une arme est uniquement si elle est conforme aux principes fondamentaux du droit humanitaire. Et donc, ces armes sont forcément absolument interdites. La dissuasion est donc une théorie totalement invérifiable qui repose, comme je l'ai dit, sur la seule chance et une perception de rationalité, qui est un critère très aléatoire, des adversaires. Et comme le dit Icahn, il est impossible de prouver de manière concluante que la dissuasion a permis d'éviter des guerres, bien au contraire, et qu'il existe une certitude qu'elle ne fera pas demain. Ce qui permet d'affirmer que la dissuasion n'est pas une solution, mais bien un problème. Elle entretient une logique d'affrontement et renforce la course aux armements, fragilise les traités légitimes et l'exercice de la menace comme mode de relation entre États. Il est donc inacceptable, il n'est donc pas acceptable que nombre de pays dotés justifient la violation de leurs obligations juridiques par des exigences de sécurité et d'intérêt national. Je saute quelques passages. Ceux qui continuent de s'en prévaloir n'ont que des faux récits et n'intègrent pas les conséquences de l'usage de ces armes. Ils n'ont pas d'arguments juridiques solides et encore moins de motifs à mettre en avant autre que l'existence d'un environnement sécuritaire mondial dangereux. Comme s'il l'était moins avec tant d'armes nucléaires en état d'alerte et de doctrine de first use. Comme si les risques de détonation n'existaient pas, qu'ils soient dus à un emploi délibéré, involontaire, accidentel ou à une erreur de calcul. Comme si la chance que nous avons eue jusqu'à présent pouvait être une politique acceptable. Comme si ces armes pouvaient encore être considérées comme un bien mondial de l'humanité, comme disent les Français parfois, ou un synonyme de paix ou une garantie ultime de sécurité stratégique qui a permis d'empêcher une troisième guerre mondiale. Tout ça est faux.
Elle a permis d'empêcher celle que nous connaissons. A-t-elle permis d'empêcher celle que nous connaissons et l'abîme dans lequel nous nous trouvons? Et quelle paix a-t-elle permis aujourd'hui? L'argument de la menace de destruction mutuelle assurée repose sur des décisions d'humains fragiles. Est-ce que vous avez confiance dans les... quand une seule personne aux États-Unis, en Russie, en France ou en Chine peut appuyer sur le bouton quand on sait qui sont ces personnes? N'est-ce pas? Et quand on sait que les systèmes techniques ne sont pas à l'abri de défaillances ou d'accidents ou de cyberattaques, l'automatisation des déclenchements. Et quand on a des présidents de ces puissances qui sont quand même, dont on peut s'interroger sur la santé mentale. Surtout qu'aujourd'hui, la majorité de ces États dotés ont des doctrines de first use dont j'ai parlé. Cette doctrine donc, est le symbole de la fragilité de la sécurité nucléaire. Elle est, c'est une arme politique, comme je l'ai dit. Elle est obsolète, dangereuse et incitative à la prolifération. Elle n'est donc rien d'autre chose qu'un mythe et un leurre. Elle ne protège pas et affaiblit l'objectif de désarmement nucléaire tout en menaçant la paix et la sécurité internationale. C'est une illusion de penser que ces armes puissent rendre le monde plus sûr. Elles sont des instruments de pouvoir qui perpétuent la défiance et exacerbent les tensions. Le désarmement est une fondation pour une paix et de sécurité collective. Il n'y a pas d'intérêt national s'il ne prend pas en compte la sécurité et l'intérêt général de tous, et donc une sécurité collective globale. Elle est particulièrement dangereuse et coûteuse. Je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là, en concluant qu'il n'y a aucun humain qui devrait avoir à subir l'inhumanité et la souffrance indicible des armes nucléaires, selon Nibakusha. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Mais merci Patrick. Donc là, on voit bien que le paysage est campé, y compris dans sa composante apocalyptique. On va écouter maintenant Pauline, et puis à partir de ces deux interventions liminaires, on repartira aussi des questions que vous avez posées tout à l'heure et qui élargissent aussi le spectre. Donc Pauline, qui est directrice campagne à Greenpeace, vas-y.
Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Pauline Boyer, je suis chargée de campagne sur le nucléaire pour Greenpeace France depuis presque 4 ans maintenant. Et donc Greenpeace a été fondée en 1971 justement pour s'opposer aux essais nucléaires se produisaient vers le Canada. Et depuis 50 ans maintenant, Greenpeace a toujours été mobilisé contre le nucléaire militaire et civil. Et je vais faire le lien, je vais expliquer pourquoi, notamment dans cette discussion. Dans ce que je voudrais aborder, c'est déjà effectivement l'état des lieux de l'utilisation déjà de l'arme nucléaire déjà qui a été faite et qui a été élaborée au prix d'une contamination environnementale et sanitaire qui est aussi grave qu'invisible aujourd'hui, qui est un écocide rémanent. On a contaminé la planète avec de la radioactivité. Et cette arme nucléaire, elle s'est développée dans un paradigme raciste et colonialiste. Et ensuite, je vous partagerai... je vais prendre l'exemple de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Depuis l'invasion globale de l'Ukraine par la Russie en 2022. J'ai beaucoup travaillé avec mes collègues de Greenpeace sur Rosatom, l'industrie nucléaire de Vladimir Poutine, et sur le mécanisme qui conduit pour la première fois dans l'histoire à détourner une centrale nucléaire civile pour un usage militaire. Donc, on peut déjà dire que la mort, elle est au cœur de la création de la bombe nucléaire. Parce que, en plus donc des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki, dont on fête le triste anniversaire des 80 ans cette année. Donc, les essais, enfin, ce qu'on appelle les essais nucléaires, mais qui sont en fait des explosions nucléaires, hein, on les appelle pudiquement essais, mais en fait, ce sont des explosions nucléaires qui ont eu lieu à plusieurs endroits dans le monde et qui ont fait des centaines de milliers de victimes. Et donc, dans les victimes, il y a des morts, mais il y a aussi énormément de malades et d'infirmes. Ce sont des gens qui ont été exposés de très près aux impacts de ces explosions nucléaires. Et donc la première bombe nucléaire a explosé, donc cette explosion nucléaire d'essai, c'était le 16 juillet 1945 sur le site du Nouveau-Mexique, donc quand les États-Unis mettaient au point leur projet Manhattan. Et entre 1945 et 1966, donc le jour de l'ouverture de la signature du traité d'interdiction complète des essais nucléaires en 1996, il y a eu plus de 2000 essais, donc explosions nucléaires, qui ont été réalisés dans le monde. Et donc ces bombes qu'on a fait exploser à proximité de populations, d'employés du nucléaire, de militaires, qui sont les premières victimes, mais avec des retombées atmosphériques dans le monde entier. Donc les pays qui ont procédé à ces explosions nucléaires, ce sont les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni, la France, la Chine et l'Inde. Et si vous voulez, j'ai lu la bande dessinée Au nom de la bombe, qui est une bande dessinée assez intéressante parce que ce sont des témoignages de populations et de militaires qui ont été exposés à la bombe, aux retombées des explosions nucléaires qu'on appelle essais. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Silent Fallout, Retombée silencieuse, de Hideaki Itto, et qui explique la contamination de l'ensemble du territoire des États-Unis dû à tous les essais explosions nucléaires qui ont été faites pour développer la bombe atomique. Et je vous cite juste deux phrases de ce que j'ai relevé dans ce documentaire qui est assez impressionnant. L'arme nucléaire a commencé la destruction de l'humanité par le mal insidieux de la radioactivité disséminée partout dans l'environnement et nos corps. Tout le monde sur la planète a été exposé aux retombées radioactives des essais nucléaires. Il y a aussi ce film de Larbi Benchia qui s'appelle Bon baiser de Mururoa, et là qui montre les impacts des essais nucléaires sur les enfants des militaires qui ont été envoyés en Polynésie pendant le temps des essais nucléaires. Donc, ils montrent les problèmes de santé qu'ont ces enfants et les problèmes d'infertilité qu'ont eu les militaires qui ont été hommes et femmes qui ont été là-bas. Et je vous invite aussi à consulter une enquête qui a été menée par Disclose et Interprète en collaboration avec l'Université de Princeton. Et donc, c'est une enquête qui a été menée pendant 2 ans sur les conséquences des essais atmosphériques en Polynésie française, avec une exploitation des documents militaires, de calculs scientifiques et de reconstitution 3D des nuages radioactifs qui ont été produits par les explosions nucléaires en Polynésie et qui ont frappé les archipels du Pacifique, et qui aussi met en évidence les mensonges de l'État sur la contamination réelle des populations civiles et militaires. Donc déjà, comment est-ce qu'une arme qui a déjà fait autant de victimes et qui continue à en faire, en excluant les périodes de guerre, comment est-ce qu'elle pourrait préserver nos vies, puisqu'elle nous tue déjà à petit feu. Ensuite, j'aimerais parler du fait que le rêve de l'utilisation qu'on appelle pacifique du nucléaire ne passe pas l'épreuve de la guerre. Et donc, je vais reprendre ici le cas de l'Ukraine. Donc, déjà, en Ukraine, on a une actrice, une entreprise qui s'appelle Rosatom, qui est l'entreprise du nucléaire, qui chapeaute toutes les entreprises nucléaires civiles et militaires en Russie, qui a été créée par Vladimir Poutine, et qui tient le bouton de, enfin, il y a le bouton du nucléaire et en même temps le fonctionnement des centrales nucléaires civiles. Et ce qu'on voit depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est qu'il y a une escalade de la menace nucléaire. Comment a commencé le conflit ? Donc les troupes russes, elles sont arrivées en Ukraine par la Biélorussie. elles sont arrivées à travers la zone d'exclusion dans le territoire de Tchernobyl et elles ont commencé par envahir la ville de Tchernobyl, à creuser des tranchées dans la forêt contaminée, à détruire tout le matériel des scientifiques qui travaillent sur les radioéléments qui sont dispersés dans l'environnement. Et en février 2025 de cette année, on a un drone qui a percuté l'arche de confinement qui protège le sarcophage du réacteur 4, donc le réacteur qui a explosé en 1986. On voit que la première vulnérabilité d'un site qui est donc à l'arrêt, qui est un site qui est fortement contaminé par la radioactivité et qui est encore qui est la cible d'un agresseur dans ce pays. Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par Tchernobyl, les troupes russes se sont dirigées vers la centrale nucléaire de Zaporijjia, donc dans le sud de l'Ukraine. Et là, donc dans la nuit du 3 au 4 mars 2022, on a pu voir en direct l'attaque d'une centrale nucléaire civile avec des missiles qui sont envoyés. Et dans cette nuit-là, l'armée russe s'est emparée de la centrale nucléaire de Zaporijjia, donc qui est une centrale ukrainienne. Et donc c'est le premier cas dans l'histoire d'une centrale nucléaire commerciale qui est saisie, qui est militarisée pendant un conflit armé et qui est utilisée pour terroriser le peuple ukrainien et plus largement, parce qu'un accident nucléaire n'atteindra pas que le peuple ukrainien. Et donc c'est quoi les conséquences de l'occupation d'une centrale nucléaire ? Donc déjà, elle a été transformée en base militaire, c'est-à-dire que les Russes ont apporté leurs armements et ont fait une base pour lancer des missiles, des drones, etc. Le personnel de la centrale nucléaire a été intimidé, a été torturé, a été contraint, ce qui érode, en dehors des crimes que ça consiste, ça érode la culture de la sûreté qui est nécessaire au bon fonctionnement d'une centrale nucléaire. Donc, heureusement, les réacteurs nucléaires ont été arrêtés très peu de temps après la saisie et l'occupation de la centrale, ce qui réduit le risque nucléaire dans un mode là de fonctionnement complètement dégradé. Mais aujourd'hui, il y a, depuis plusieurs mois, un projet de redémarrage des réacteurs nucléaires de la centrale de Zaporijjia par la Russie. Et donc là, alors je ne sais pas si le courant a été rétabli, mais il y a eu plus de 2 semaines de coupure complète de courant, donc de rupture de connexion entre la centrale de Zaporijjia et le réseau électrique. Et donc, étant donné qu'il faut en permanence de l'électricité pour faire fonctionner les pompes qui alimentent en eau pour le refroidissement des centrales nucléaires. On a besoin de cette eau en permanence parce que même si les réacteurs sont éteints, eh bien, il y a des piscines avec du combustible radioactif très chaud qu'il faut refroidir et les cœurs de réacteurs également. Et donc, cette centrale, elle fonctionne que grâce aux générateurs diesel qui sont les générateurs d'ultime secours qui sont la dernière barrière avant la rupture totale d'électricité et on fonce droit vers un accident nucléaire. Et donc aujourd'hui, cette centrale-là, elle est utilisée par la Russie comme une menace pour le monde entier en disant ça sert pour l'escalade de la menace nucléaire. Et donc là, le fait d'avoir déconnecté la centrale, donc avec Greenpeace, on travaille sur le terrain et notamment avec le cabinet McKenzie Intelligence Service qui est spécialisé dans les mouvements de guerre. Et il a été montré que la déconnexion a été intentionnelle par les troupes russes et que ça serait le premier pas vers une reconnexion de la centrale nucléaire sur le réseau électrique des territoires occupés sur lesquels les Russes ont construit des lignes électriques dans le but de raccorder la centrale à la Russie ensuite. Et donc, ça serait la première étape vers un redémarrage des réacteurs nucléaires. Et donc, un accident grave aurait des conséquences environnementales et économiques qui iraient bien au-delà de l'Ukraine, évidemment. L'ONG ukrainienne Truth Hounds vient de publier un rapport qui s'appelle « S'emparer du pouvoir »,« Seizing Power ». et qui est la première documentation complète sur la manière dont une entreprise publique, donc du nucléaire, qui est Rosatom, l'entreprise d'État russe, comment elle s'est rendue complice de l'occupation, de la répression et des violations de la sûreté nucléaire. Et donc ce rapport-là, il met en lien direct les violations des droits humains, les risques pour la sûreté et la sécurité nucléaire. Et en fait, dans cette centrale, le personnel qui est chargé de la sécurité d'exploitation est devenu lui-même une cible. Donc dans ce rapport, il montre notamment les preuves de punition, de torture infligées aux travailleurs nucléaires ukrainiens, qui est avec la complicité de Rosatom. J'ai encore combien de temps ?
Si tu peux, puisqu'on est presque à 3 heures, donc si tu as encore 5-6 minutes.
Oui, ok. Ça, j'ai dit. Alors, donc, ce que ça montre, si on regarde... donc, en plus d'avoir ciblé Tchernobyl, Zaporijja, il y a constamment des frappes sur le système, contre le réseau électrique ukrainien. Et donc, les leçons qu'on peut tirer de la guerre en Ukraine, c'est que le nucléaire, pour un pays, est une vulnérabilité supplémentaire en cas de conflit armé. En Ukraine, une des vulnérabilités du pays, ce sont ses centrales nucléaires. Et que donc les réseaux électriques qui sont décentralisés augmentent la résilience de la population face aux frappes ennemies, face aux frappes russes. La meilleure solution aujourd'hui, et c'est ce à quoi Greenpeace travaille avec les ONG locales, c'est l'installation de panneaux solaires sur les lieux stratégiques, par exemple les écoles et les hôpitaux dans les villages ukrainiens. Là-bas, les énergies renouvelables sont vraiment les énergies de résistance, de résilience et de paix face aux frappes russes. Donc si on regarde tout ça et qu'on transpose à la France, parce qu'on peut montrer l'écho avec notre arme nucléaire, mais nous avons énormément d'installations nucléaires qui posent un risque sécuritaire énorme en France et qui constituent une faiblesse de la France et une vulnérabilité incroyable si demain un conflit armé vient à notre porte. Alors, je fais une petite liste des installations nucléaires à risque en France. Donc on a 56 réacteurs nucléaires qui sont en fonctionnement aujourd'hui, plus l'EPR de Flamanville, on va dire, qui fonctionne à peu près, ou peut-être pas trop en fait. Voilà. On a 56 piscines de refroidissement de combustible usé qui sont à côté de chaque réacteur nucléaire, et ces piscines ne sont pas bunkerisées. Donc là, si vous regardez à Zaporijja, ce sont des réacteurs de conception russe. Et ces réacteurs ont une piscine, mais qui est bunkerisée. Donc, c'est-à-dire qu'elle est quand même difficilement atteignable. En France, elles sont sous des hangars. Donc un drone, un missile, un avion, ça serait suffisant pour provoquer un accident nucléaire s'il y a rupture du contenant de la piscine, quoi. Alors, parce que Greenpeace a fait beaucoup d'actions en rentrant dans les centrales nucléaires pour dénoncer ce risque, et donc l'EPR maintenant, donc le nouveau modèle de réacteur, le dernier qui est construit par EDF depuis plus de 17 ans maintenant, a une piscine bunkerisée. Mais aujourd'hui, la France est dans une situation de vulnérabilité incroyable par rapport à ça. Et il faut bien sûr citer aussi l'usine de La Hague, qui est l'usine de retraitement du combustible usé, qui est un des endroits au monde qui concentre le plus de matières radioactives. Donc, on a 4 piscines non bunkerisées où sont stockés plus de 100 cœurs de réacteurs nucléaires. On a 82 tonnes de plutonium sous forme de poudre dans des bunkers. Et la totalité des déchets de haute activité qui sont dans des puits à 30 mètres sous terre en attendant de savoir ce qu'on va en faire. Donc on a un manque de protection, une vulnérabilité incroyable en France, un risque de prolifération avec tout ce qui est à La Hague. Et donc, c'est aujourd'hui un impensé dans la politique française. Parce que moi, j'ai posé la question à EDF. Est-ce que vous prenez en compte le risque de guerre quand vous pensez à construire de nouveaux réacteurs nucléaires ? Ils disent, non, c'est le ministère de la Défense, c'est pas nous. OK ? Et dans les débats sur la relance du nucléaire et sur tout ce qu'on va faire dans l'aval du cycle, on ne parle absolument jamais de défense. Et j'ai oublié de parler de tous les sites aussi de stockage de déchets nucléaires qui sont répartis dans toute la France. Et pour terminer, je voudrais parler de... il y a encore beaucoup de choses à raconter, mais peut-être regardons juste pendant deux minutes le rôle de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, en Ukraine aujourd'hui. Donc on a un directeur général de l'AIEA qui est Monsieur Raphaël Grossi, qui est beaucoup allé en Ukraine. Et donc on rappelle le rôle de l'AIEA, c'est le Centre mondial pour la coopération dans le domaine du nucléaire qui s'emploie à promouvoir l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies nucléaires. Sauf qu'aujourd'hui, l'AIEA est bien impuissante ou a très peu de marge de manœuvre dans la centrale de Zaporijjia. Donc ils ont un personnel qui se relaie là-bas, quelques employés de l'AIEA qui y sont. Ils n'ont pas accès à tout. Et Greenpeace a dénoncé depuis le début la complaisance un peu trop forte de l'AIEA pour la Russie, parce qu'il y a eu par exemple beaucoup de désinformations sur des attaques de drones qui étaient des drones envoyés par la Russie sur la centrale de Zaporijjia, en disant mais c'est l'Ukraine qui a envoyé des drones et qui bombarde la centrale et donc c'est l'Ukraine qui agite la menace nucléaire. La guerre en Ukraine aujourd'hui, c'est une guerre de désinformation énorme. Il y a deux semaines, Monsieur Raphaël Grossi était en Russie pour un événement organisé par Rosatom, donc à serrer la main de Vladimir Poutine, et donc est pris entre l'objectif qu'il n'y ait pas d'accident nucléaire, puisque ça ne servirait pas non plus l'industrie nucléaire qui est un accident nucléaire, mais il fait la promotion de Rosatom et de l'industrie de M. Poutine, puisque Rosatom, c'est quand même le premier constructeur de centrales nucléaires au monde, le premier enrichisseur d'uranium mondial, et donc il marche aussi pour Rosatom, forcément. On lui a envoyé beaucoup de lettres, des habitants des communautés locales aussi à côté de la centrale nucléaire de Zaporijjia, ils ont aussi envoyé donc une lettre à Monsieur Grossi pour lui demander d'être beaucoup plus strict dans le refus catégorique de redémarrer les réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Est-ce que il faut que je m'arrête là? J'ai encore plein de choses à dire, mais on a toutes et tous choses à dire, donc on peut peut-être commencer à échanger.
Je propose qu'on commence à échanger, hein, parce qu'on a déjà dépassé la première heure, et vous aurez d'autant plus l'occasion de répondre. Alors, je voulais simplement, parce que ça fait une bonne transition. Oui, ça ne marche plus, hein, ce micro-là. Je voulais proposer, parce que ça fait une bonne transition avec ce que Pauline vient de nous dire, que Thierry Salomon, qui est présent et qui a beaucoup travaillé aussi, Thierry Salomon, c'est un des fondateurs de Negawatt et qui a beaucoup travaillé sur la question nucléaire civil, nucléaire militaire, puisse commencer l'ouverture de l'échange en nous disant quelques éléments sur cette question. Donc Thierry, si tu veux... Je peux passer mon micro. Il y a un micro qui est...
Tiens. Moi, je vais me mettre là, ce sera plus simple. Je vais pas être très long par rapport à ça. On a, nous, à l'association Negawatt, travaillé, vous le savez, sur des scénarios énergétiques. On entame en ce moment notre sixième exercice de scénario qui va porter sur 2027 et jusqu'à 2070. Et évidemment, la question du nucléaire se pose, bien entendu, puisque vous savez qu'en France, on est un pays extraordinairement nucléarisé au niveau de l'électricité, à peu près 75% de notre électricité vient de là. Et donc, là, il y a une double question qui se pose, qui est celle, évidemment, du vieillissement de l'ensemble des centrales actuelles. On arrive sur la quatrième, 40 ans à peu près de fonctionnement, un peu plus, moyenne. Et donc, derrière, c'est ces unités ne sont pas faites derrière pour évidemment être immortelles. On peut changer des choses, mais on ne change pas la cuve, bien entendu. Donc il peut se poser un certain nombre de problèmes. Et puis ensuite aussi, on a affaire à une formidable fragilité, ça a été évoqué par Pauline, de ces équipements. Ils ont l'air très solides, ils ont l'air très robustes. Et en fait, c'est la fausse robustesse. Ils sont extraordinairement fragiles, c'est-à-dire que quelque part, vous avez vu qu'il y a 2 ans, on a eu un problème qui était sur des soudures sous contrainte et plus du tiers des réacteurs ont dû être arrêtés pour quelques millimètres, pour 2 à 3 millimètres sur certaines soudures qui étaient sur les circuits de sécurité. Et puis, en même temps, on est aussi sur des équipements qui, ça a été indiqué par Pauline, doivent être refroidis en permanence. C'est ça le problème, si vous voulez. C'est-à-dire que, quelque part, ça ne s'arrête pas comme une voiture ou ça ne s'arrête pas comme une usine. Derrière, lorsque ça s'arrête, on a environ, dans un petit cœur de réacteur, qui n'est pas très grand, hein, 5-6 mètres à peu près, on a encore 50 pour un 50 mégawatts qui chauffe, qui continue à chauffer lorsqu'on l'arrête, si vous voulez, à cause de la radioactivité. 50 mégawatts, ça veut dire qu'en fait, c'est comme si on avait 50 000 radiateurs d'un kilowatt qui continuent à chauffer le cœur. Moyennant quoi, au niveau de Fukushima, par exemple, eh bien, la fusion du cœur, après le tsunami, la première fusion du cœur sur le réacteur numéro 1 de Fukushima, a eu lieu au bout de 3 heures. Temps de réaction, 3 heures derrière. Et ensuite, après, derrière, une fois que la fusion est faite, eh bien, le corium tombe directement au travers de la... Il coule à travers le béton, passe dans les nappes phréatiques, etc. etc. Pour les autres réacteurs de Fukushima, les 2 et 3, ça a été la même chose. Au bout de 3 jours, ou 2 à 3 jours, à peu près. Donc on est dans cette grande fragilité. Voilà. Et puis il y a une autre fragilité que tu as également évoquée, qui est celle d'un risque en cas de conflit de haute intensité. Et là, il ne faut pas imaginer que derrière, ça soit comme en Ukraine, avec un moment où les chars russes sont à proximité des centrales. On voit bien avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Imaginez une nuée de 200 ou 300 drones militarisés qui sont sur chacun de nos 18 centrales nucléaires. Et on n'a plus de courant en France dans les 24 heures. Donc on est sur une fragilité extraordinaire. Et la réponse qui a été dite effectivement par le ministère, par EDF, est formidable. Ah ben, c'est pas nous, c'est le ministère de la Défense, d'accord. Sauf que lorsqu'on construit des équipements de ce type-là, et notamment les futurs EPR2, ben, je pense qu'il faut se préoccuper véritablement de la défense. Voilà, je ne vais pas en dire plus.
Mais...
Ma conclusion est que nous, on estime sous la négawatt que quelque part, il faut une sortie maîtrisée, mais une sortie de l'ensemble du nucléaire civil. On a maintenant d'autres possibilités d'avoir un système électrique qui soit pratiquement à 100% renouvelable.
Merci Thierry. Merci. Donc du coup, là, on peut vraiment rentrer dans la partie échange, parce que au fur et à mesure des interventions, le diagnostic s'aggravait encore un peu plus. Et donc, on peut peut-être repartir aussi de la question que vous aviez posée d'entrée de jeu. Allez-y.
Alors oui, en fait, ça marche. En fait, moi, je posais, je voulais élargir le débat sur la problématique de la défense, parce que le nucléaire, la dissuasion civile et le nucléaire la dissuasion nucléaire et le nucléaire en général n'est qu'un aspect de la problématique globale de la défense. Quels sont les risques? Si on fait un sondage ici, quels sont les principaux risques qui nous menacent dans les mois et les années qui viennent? Bon, on ne va pas faire le sondage, mais je pense qu'il y en a 2 qui vont ressortir. C'est la problématique climatique, l'environnement, etc. Et c'est le risque d'une prise de pouvoir de l'extrême droite. Dans ces 2 cas, est-ce que le nucléaire ou la militarisation en général vont nous aider dans ce domaine-là? Probablement pas. Voilà. Maintenant, on pourra. Mais j'ai d'abord des questions. Bon, vous avez fait un tour d'horizon, un constat de la situation, de la réalité. La question qui se pose maintenant, c'est comment on peut sortir de ça? Ça fait 50 ans que Greenpeace existe et se bat contre le nucléaire civil et militaire. 50 ans après, on en est au même point. Moi, je fais partie du MAN, hein, c'est pour ça que j'ai un gros logo dans le dos. On a aussi 50 ans l'année dernière et on se bat contre le nucléaire, entre autres, pour une défense civile non violente depuis 50 ans et on n'en est pas arrivé plus loin. Maintenant, une autre question, c'est par rapport à Pauline, par rapport à Rosatom, il me semble bien que, mais vous me direz si je me trompe, que la France continue à avoir des accords ou des liens avec Rosatom, puisque notre uranium, je suis alsacien, j'ai un député, mon député est un nucléaire pur et dur. Et donc, chaque fois que je le vois, si je lui demande, et qui, c'est celui qui vante l'autonomie énergétique de la France grâce au nucléaire, n'est-ce pas? Alors, je lui dis, mais où il sort le nucléaire? Alors, chaque fois, il botte en touche. Donc, on continue à avoir du nucléaire, puisque le Niger nous a viré. Le nucléaire, il vient en partie du Kazakhstan. L'uranium, oui, c'est ça. Donc, voilà, voilà ma question. Et puis, par rapport à la... Mais bon, c'est un autre sujet, mais l'évoque si on aura le temps.
Pas trop de questions à la fois.
Hein, si on a le temps, c'est par rapport à la prolifération. En Alsace, on a la chance qu'on ait fermé notre centrale nucléaire, mais nos élus et nucléocrates sont en train de nous préparer un technocentre qui est en fait une fonderie nucléaire dont je peux vous parler après.
Alors... Compte tenu de...
Ça marche.
Oui, compte tenu de l'importance des questions, il faut peut-être déjà commencer à y répondre, puis ensuite on prendra d'autres questions. Pauline, comme tu étais directement concernée.
Peut-être en commençant par Rosatom. Effectivement, Rosatom donc est une entreprise qui a échappé jusqu'à maintenant aux sanctions européennes. Notamment parce que plusieurs pays européens ont sur leur sol des centrales nucléaires de conception russe qui fait qu'ils ont une dépendance avec la Russie. Et donc c'est toute la force de Rosatom qui est vraiment un outil géopolitique, géostratégique au service du régime de Vladimir Poutine. Parce qu'à chaque fois que la Russie construit un réacteur nucléaire russe dans un autre pays, eh bien, il y a une dépendance financière. Souvent, c'est les banques russes sous garantie d'État qui prêtent l'argent, parce que c'est quand même un des problèmes majeurs pour construire une centrale nucléaire, c'est le financement. Une dépendance technologique, une dépendance en termes de fourniture d'uranium, donc de matériel, et donc une dépendance géopolitique. En Europe, la Hongrie a bloqué à négocier pour que Rosatom ne soit pas inclus dans les sanctions et qu'on ne revienne plus sur cette question parce que 50% de son électricité est produite grâce au réacteur nucléaire de conception russe qu'elle a sur son sol. Et là, il y a un projet de construire deux nouveaux réacteurs nucléaires à Pax, en Hongrie, qui seraient construits par la Russie, donc Rosatom, sur le territoire européen, avec la participation de la France et donc de Framatome. Enfin, c'est 75% EDF, donc on va dire EDF, qui va fournir le système de contrôle-commande. Donc c'est en gros le cerveau et le système nerveux des centrales nucléaires pour ces réacteurs. Et ces équipements sont des biens à double usage, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés aussi bien à des fins civiles, donc pour faire fonctionner une centrale nucléaire, mais aussi à des fins militaires, parce que ça peut aussi équiper les sous-marins nucléaires. Donc on est aujourd'hui, donc 3 ans et demi après le début de l'invasion globale de l'Ukraine, et la France continue à avoir des contrats, à collaborer au renforcement de l'influence russe en Europe, avec notamment la construction de ces réacteurs nucléaires en Hongrie, de renforcer l'influence donc sur la politique énergétique de l'Europe par la Russie, et continue à importer de l'uranium russe via notamment donc l'uranium enrichi qui vient de Russie. Donc même si on les a bien embêtés, donc là du coup le taux d'uranium russe a un peu diminué dans les importations, mais toutes les 2 semaines environ à Dunkerque, des cargos russes qui viennent de Saint-Pétersbourg arrivent et livrent 10, 20, 30 conteneurs d'uranium naturel qui viennent du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Et dans les mines du Kazakhstan, Uranium One, qui est une filiale de Rosatom, a des parts énormes. Donc ça veut dire qu'on reçoit de l'uranium naturel en partie russe toutes les deux ou trois semaines en France et aussi à Rotterdam pour alimenter nos sites en France. Donc que ce soit à Malvézy pour la conversion de l'uranium, à Romans-sur-Isère pour la fabrication de combustible ou à Lingen en Allemagne où Framatome exploite un site de production de combustible nucléaire pour alimenter les centrales nucléaires en Europe. Voilà, ça c'est une partie des liens parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais juste pour dire à quel point cette situation amène à une impunité totale. On collabore avec une entreprise dont on a prouvé qu'elle est complice de crimes de guerre, de violations de droits humains, de droits internationaux sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui a participé à la torture, à la contrainte d'employés de cette centrale nucléaire, et la France continue à commercer avec elle.
Alors, oui, bien sûr, parce que il faut quand même qu'on tente de répondre à la toute première partie de la question, qui était depuis 50 ans que les uns et les autres on dénonce tout ça et que ça s'est plutôt aggravé, qu'est-ce qu'on fait ? Et y compris pourquoi nos dénonciations n'ont pas véritablement fonctionné, hein ? C'est une question difficile, mais il faut quand même qu'on l'aborde. Patrick ?
Oui, non, mais très rapidement, vous avez parlé de deux périls existentiels. Un, en tous les cas, global. L'autre, politique européenne. Pas que européenne, par ailleurs. Mais vous n'avez pas mentionné qui, pour moi, est la menace la plus existentielle, qui est la menace nucléaire. On est au bord d'une guerre, de guerres multiples nucléaires qui peuvent être globales. C'est pas moi qui le dis. Le secrétaire général, en ouvrant le débat général à l'Assemblée générale des Nations Unies le 22 septembre dernier, a insisté sur ça. C'est la priorité numéro une. On est au bord. L'imminence de guerre nucléaire est là. Et vous pouvez pas parler du Proche-Orient, vous parlez de l'Ukraine, vous pouvez parler de l'Inde-Pakistan, vous pouvez parler de l'Asie du Nord-Est. Enfin, je veux dire, pour parler de quelque chose, de choses comme ça. Donc on est dans cette situation-là. Donc ça ne peut pas être indifférent. On ne peut pas parler et mettre de côté une question aussi vitale et existentielle. Je me permets quand même de dire ça, en plus de la course folle aux armements qu'on observe. Plus de 3 000 milliards de dollars ont été consacrés l'année dernière au commerce des armes. Les États-Unis ont augmenté encore, le budget a été adopté hier ou avant-hier de la défense au Pentagone, à presque un millier de milliards de dollars, dont une bonne partie pour de nouveau les armes nucléaires et la modernisation dans la triade et pas simplement dans les deux dimensions sous-marines et aériennes comme en France. Et donc on est dans une situation comme ça, je me permets de le dire, et d'insister sur que la question de désarmement n'a pas été mentionnée, pas plus d'ailleurs qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies. La question du désarmement n'a pas été très très prononcée. On est dans une ambiance guerrière, belliciste, militariste. Et la France est un pays belliciste et militariste. Et ça, c'est très important. Hein ?
Y compris chez les écologistes.
Oui, non, mais dans tout le spectre politique, qui c'est qui, dans le spectre politique français, s'oppose à l'armement nucléaire et à la dissuasion nucléaire, au désarmement ? Ou en faveur du désarmement. Très peu, quelques individus, bien sûr. On peut même les nommer nommément. Donc, c'est pour ça que je voulais réagir en prenant la parole sur cette question-là. Et j'aurai peut-être l'occasion de parler de droit tout à l'heure, parce qu'il faut parler de droit. On ne peut pas être défenseur du droit international, donc de la paix, de la sécurité mondiale, si on ne parle pas de droit international, de ses exigences. Face, comme vous l'avez dit, au péril existentiel que peut être le changement climatique, que peut être l'intelligence artificielle, que peut être les guerres et les pandémies et bien d'autres. Qu'est-ce que pèsent des armes par ailleurs obsolètes, inefficaces et illégales face à la menace que ça... Et ça ne fait pas beaucoup débat en France. Je suis très étonné, y compris parmi les écologistes. Voilà, merci.
Et...
Oui, vas-y, Pauline.
Ouais, et juste peut-être, mais en 50 ans, il y a quand même le traité de non-prolifération des armes nucléaires, le traité d'interdiction. Et donc, il y a quand même... Il y avait un documentaire sur Arte avec Joseph Rotblat, notamment, qui est un physicien, qui est le seul physicien à avoir quitté le projet Manhattan avant l'explosion, enfin avant les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, et qui a consacré ensuite sa vie à essayer justement de limiter la prolifération des armes nucléaires, et disait, ben, on a peut-être évité un désastre, on le sait pas, mais en tout cas ils ont tout fait pour, et en tout cas j'arrive pas trop à comprendre effectivement le fait que aujourd'hui les arguments pro-nucléaires qui sont des arguments arrivistes de regarder le climat, on a besoin d'une énergie bas carbone, donc forcément on a besoin de nucléaire. Enfin, c'est tellement simpliste comme pensée, j'arrive pas à savoir pourquoi ça infuse tellement dans les différents milieux, alors que c'est un argument qui est très très c'est très facile de voir que ça ne tient pas la route. Et je pense que les mouvements comme Greenpeace, enfin même dans le mouvement climat, des gens doutent parce que il y a un tel martelage médiatique. C'est plus difficile d'aller dans les médias maintenant pour l'écologie, mais pour ces sujets-là aussi, pour le nucléaire, et pour juste rappeler qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi ça ne rentre absolument pas dans un programme écologiste, dans un programme de gens qui défendent le droit de vivre dans un environnement sain, sans risque, etc. Et donc, c'est essentiel aujourd'hui de garder le cap sur... la sortie du nucléaire civil et le désarmement du nucléaire militaire. Et pour continuer à répondre à la question sur comment est-ce qu'on se défend, déjà, une partie de la défense, c'est d'améliorer la résilience de la population. Étant donné le nombre d'installations nucléaires en France qui confèrent une vulnérabilité incommensurable à la population, il est urgent de réfléchir à comment est-ce qu'on sort du nucléaire, comment est-ce qu'on arrête d'avoir des installations qui sont des cibles, en fait, qui peuvent être des cibles pendant des guerres, et pour améliorer la résilience de notre population. Et arrêter de se dire qu'on va construire, que c'est une bonne idée de construire des réacteurs nucléaires alors qu'on est dans un contexte géopolitique qui est super instable et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et ça, on relie aux autres crises dont on parlait. On est en crise climatique. Comment on refroidit un réacteur avec de l'eau qui devient de plus en plus chaude? C'est un seul des aspects qui ne va pas avec le développement de nouveaux réacteurs nucléaires. Donc, la sécurité humaine, elle va beaucoup plus loin que juste l'armement militaire. C'est comment est-ce qu'on assure une sécurité énergétique ? Et on voit bien en Ukraine que le nucléaire n'assure pas la sécurité énergétique de la population ukrainienne aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les panneaux solaires qui assurent la sécurité énergétique des villages dans lesquels on a réussi à en mettre sur les écoles, les hôpitaux. Quand un bâtiment est bombardé, et ça, c'est ce que nos collègues ukrainiens nous disent, même si le panneau est bombardé, mais pas trop endommagé, il fonctionne quand même. Enfin, on est dans des types de production d'électricité qui n'ont vraiment mais rien à voir, quoi. Donc, comment aujourd'hui on mène des actions de politique publique qui vont permettre d'assurer la sécurité énergétique avec des réseaux qui sont décentralisés, des systèmes qui permettent la sécurité alimentaire, de réduire la pauvreté, tout ce qui réduit les tensions entre les populations, les tensions entre les pays. Et c'est mener ces programmes-là qui permettra de réduire les risques aussi de conflits en tout genre.
Je voudrais juste relayer la question, puis je vous redonne la parole, parce que je vous trouve tous les deux sous des formes différentes très convaincants, je dirais, du point de vue de l'argumentation rationnelle. La question, c'est: est-ce que ça se joue aujourd'hui principalement sur le terrain rationnel, ou est-ce que les choses ne se sont pas déplacées sur un terrain émotionnel? Et là, il ne suffit pas de démontrer, et vous êtes très convaincant du point de vue de la démonstration, à quel point aussi bien le nucléaire militaire que le nucléaire civil, que la combinaison des deux est contre-productif. Mais si on dit oui, mais le terrain s'est largement déplacé, regardez par exemple le type d'argumentation, enfin de courants qui ont permis l'élection de Trump. Il n'est pas de nature rationnelle. Il était autour du thème du wokisme, de créer une situation telle que la peur du wokisme était supérieure à la peur, par exemple, d'un néo-fascisme. Donc, est-ce que sur ces questions-là, il n'y a pas un enjeu de traitement on évoquait, au moment du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, plusieurs réseaux internationaux s'étaient rassemblés autour du thème de ce qu'on avait appelé le double dérèglement climatique, et qui consistait à dire il y a évidemment le dérèglement qu'on constate sur le plan physique avec le réchauffement moyen, mais il faut être attentif à un autre dérèglement qu'on avait appelé la glaciation émotionnelle. Or, cette glaciation émotionnelle, avec la montée d'abord des intolérances, puis des haines, puis des différentes formes d'intégrisme, etc., elle va aussi vite, et des fois plus vite encore, que l'emballement lié au réchauffement physique et au dérèglement climatique physique. Voilà, donc je voulais introduire aussi cette dimension dans les questionnements. Et puis on va prendre aussi quelques autres questions, sachant qu'il est 15h28, donc il faut qu'on termine impérativement à 16h, parce qu'il y a plusieurs autres ateliers. Hein.
Et je me permets de faire une
Allez-y.
Petite incursion, parce que entre la dimension rationnelle et émotionnelle, j'avais envie de rajouter l'imaginaire, parce que je pense qu'effectivement, ce que vous avez dit, on a un pays belliciste, et je pense que ce qui est difficile dans le fait d'argumenter contre de la dissuasion, c'est pas d'argumenter contre, c'est de proposer une autre perspective, une alternative qui nous paraisse fonctionnelle, alors qu'on est dans un imaginaire où c'est le plus fort qui va gagner. Est-ce que vous voulez bien venir par ici ?
Ah ouais, moi je voulais revenir sur la dissuasion nucléaire, à savoir j'étais très intéressé par ce qu'a dit Patrick Zahed, également Pauline Boyer, qui est Greenpeace, moi aussi d'ailleurs. Moi je suis surtout très j'ai beaucoup d'interrogations sur le fait qu'on voudrait que les armes nucléaires disparaissent, mais comment on peut convaincre des gens comme Monsieur Poutine qui en a vraiment rien à foutre de nous. Et je vois pas quelle méthode on peut avoir sur des gens qui sont peut-être des malades mentaux, j'en sais rien, mais qui n'ont pas du tout les mêmes buts que nous, qui n'ont pas la même rationalité, ils ne pensent qu'à eux, à la puissance, voilà, c'est tout.
Il y a encore d'autres souhaits de prise de parole. Allez-y.
Oui, il y a je crois un peu un paradoxe. Enfin, ce qui m'apparaît comme un paradoxe, c'est que plus la menace militaire s'accroît, plus au niveau européen, on renforce le système nucléaire militaire. En particulier, le fait que la France pourrait partager sa force de frappe ou sa force de dissuasion avec d'autres pays. On a parlé de l'Allemagne, qui, comme par hasard aussi, on voit ressurgir un peu en Allemagne les ambitions en matière de nucléaire civil. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce, enfin, ce qu'on appelle un paradoxe, quoi. C'est-à-dire qu'avec tous les dangers, tous les risques qu'a souligné Pauline, on va au contraire dans le sens d'un renforcement de du militaire nucléaire. Et une question alors là, tout à fait technique, pourquoi on a arrêté les essais nucléaires depuis un certain temps ? Techniquement, est-ce que c'était effectivement des nécessités techniques ou c'était pour montrer sa force, les essais nucléaires ?
Vous pouvez commencer à répondre déjà à ces questions.
Moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas un utopiste. J'ai passé ma vie à travailler dans des situations de conflits armés, à voir des victimes de guerre, à contribuer au développement du droit, à sa mise en œuvre, à inviter les États à ratifier et à mettre en œuvre les traités de droit international humanitaire, et à parler de victimes de guerre et à promouvoir la paix et la sécurité internationale. Bon. Donc je ne suis pas un utopiste. Mais ce que vous parlez, la question qui était posée, c'est l'alternative. Mais moi, ce que j'entends dans vos questions, je me permets de dire ça, ce n'est pas confrontationnel. C'est que vous n'avez pas intégré le fait que c'est obsolète, que c'est illégal et que ça ne sert à rien en plus. Ni technique, ni sur le plan stratégique, ni sur le plan technologique. Beaucoup très vulnérable. Vous parliez tout à l'heure on parlait d'accident. Bon, la journée internationale pour l'élimination des armes nucléaires, c'est le 26 septembre. Pourquoi le 26 septembre ? Parce qu'il y a eu un risque d'accident nucléaire. Le colonel Petrov, qui était en charge de vérifier les missiles et de voir s'il n'y avait pas des missiles sur ses écrans radars, missiles qui traversaient, il a cru voir des missiles, mais c'était des rayons de soleil. Il a dit, moi, je ne jette pas l'alerte. Aujourd'hui, on est avec des missiles hypersoniques qui, en 15 minutes, peuvent passer, si vous parliez des Russes. Pour moi, la Russie n'est pas un ennemi, je veux dire, que je sache. Ou alors, si c'est votre avis, ce n'est pas le mien. Parce que, moi, voilà. Et donc, en espace de quelques minutes, un homme doit prendre une décision, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, si c'est accidentel, si c'est une cyberattaque, ou si, on ne sait pas. Surtout quand les commandes et contrôles sont dans les mains de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sans contrôle humain significatif. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc pour toutes ces raisons-là, accidentelles, erreurs, de dirigeants absolument fous, mais j'en connais pas beaucoup qui aujourd'hui sont des gens responsables véritablement par rapport à l'appel à la sécurité. L'alternative, c'est le droit international, c'est la diplomatie, c'est le multilatéralisme, c'est la sécurité globale. Il n'y a pas, avec ces domaines tels que ceux-là, d'intérêt national. Il n'y a qu'un intérêt général de la vie sur la planète. Donc c'est effectivement un autre monde, un autre paradigme. C'est pour ça que le traité d'interdiction des armes nucléaires est un outil vers ça, et non pas, les autres considérations. Vous mettez les 4/5 de la population du monde en menace et en otage par des positions telles que qui sont défendues en France et ailleurs. C'est quand même incroyable. Moi, je suis personnellement scandalisé de ça. Et on ne parle pas là de seul coup, on parle de défense. Mais vous voulez défendre qui ? Contre qui ? Et quoi ? Un hexagone de 500 000 km² avec 8 milliards d'habitants, vous allez vous soucier du sort des Zimbabwéens ou des îles du Pacifique. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, l'agenda, je m'adresse à vous parce qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde tous, mais l'agenda, c'est le respect du droit et de la sécurité internationale dans un multilatéralisme qui a été dévasté. Un Conseil de sécurité qui ne fonctionne plus, une Assemblée générale qui ne prend pas ses responsabilités, même par rapport au génocide à Gaza. C'est ça qui est en cause. Donc moi, j'en appelle au respect du droit. Le reste, c'est des considérations qui ne m'intéressent pas. L'intérêt national d'un pays ne m'intéresse pas parce que ça n'a aucun sens. Tous les autres, le TNP, c'est 5 États qui ont le droit de posséder des armes et qui se sont arrogé le droit de les détenir d'une manière infinie. Il n'y a plus, depuis 1995, il n'y a plus de limite de temps. Avant, c'était 25 ans. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on en a besoin, parce que, vous comprenez, nous, etc., nous sommes des États responsables et les autres, vous êtes tous une bande d'irresponsables. J'ai assisté à des réunions, à des conférences où les Français et d'autres disaient aux autres États du monde, c'est-à-dire les 9/10 des autres États du monde, même plus, vous êtes irresponsables en remettant en cause les armes nucléaires. Et c'est le contraire. Alors, moi, je me permets de réagir comme ça, parce que, et si ça vous intéresse, je vous dirai quelques mots sur le traité d'interdiction des armes nucléaires, sur le droit international humanitaire. Ces armes sont interdites, j'en dis juste quelques mots, parce qu'ils violent tous les principes fondamentaux, et tous les principes fondamentaux sur lesquels le droit international est basé. Tous, sans exception. C'est une arme de destruction massive. Une partie en conflit n'a pas le droit de choisir qu'importe quelle arme ou une méthode de guerre, c'est-à-dire... C'est pas possible de choisir des armes nucléaires. Ils violent tous les principes de distinction. Objectif militaire, personne et bien civil ou personne civile protégée. Tous. On ne fait pas la distinction, ces armes-là. Ni de proportionnalité, ni de précaution en attaque, ni celle de ne pas utiliser d'armes qui pourraient générer des maux superflus et ne pas porter atteinte à l'environnement naturel d'une manière durable. Enfin, je veux dire, tout. Et en plus de ça, on est fiers de posséder des armes nucléaires ici. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, on ne peut pas après parler de droit international. Pas plus qu'on peut parler de droit international quand on défend Israël, n'est-ce pas? On ne peut pas. C'est incompatible. Donc, moi, j'en appelle, comme juriste et comme diplomate, j'en appelle au respect du droit. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation dramatique. Je finis juste mon propos en lisant une déclaration du représentant de la Slovénie au débat général de l'Assemblée générale il y a quelques jours. Il dit... Si nous, leaders de la planète, ne pouvons rien offrir que la terreur, les conflits, la pollution, la peur, les inégalités, la guerre, aux 8 milliards d'humains, nous devons alors dire la vérité. Nous sommes complices de crimes contre notre propre civilisation et contre notre planète. La Slovénie, hein, c'est pas, je ne parle pas du pauvre Venezuela, n'est-ce pas? Donc, voilà, j'en termine là. Je m'excuse pour l'émotion, mais je trouve ça incroyable qu'on ne défende pas le droit international.
Oui, en fait, je pense que nous, ce qu'on cherche, c'est à trouver les arguments pour le fait. Parce qu'ici, je crois qu'on est tous convaincus. Mais du coup, oui, vous avez donné plein d'arguments. C'est très bien. C'est parfait. Merci, Pauline.
Ratification. Se battre pour la ratification du TIAN et que la France devienne, aille s'asseoir comme observatrice à la prochaine réunion des États partis au TIAN en mars prochain. Là, ce serait un signal fort. Et ils ne le font pas. Et prêcher la ratification. Passer de la sécurité à l'humanitaire. Et la sécurité globale. Il n'y a pas de sécurité si on n'assure pas la sécurité des autres.
Merci. On va donner la parole à Pauline.
Alors, peut-être en commençant par la France qui veut étendre son bouclier nucléaire pour protéger l'Allemagne, etc. En fait, on est, j'ai l'impression, dans une fuite en avant. Pour avoir toujours plus de pouvoir, voilà, la France va protéger l'Allemagne grâce à son armement nucléaire. Il y a une espèce de fascination du nucléaire, une espèce d'espoir d'aliénation certainement à la technologie, à l'État qui va nous sauver grâce à sa technologie nucléaire. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui parce qu'on est dans un monde qui agite des peurs. Et donc, on a peur de manquer. Vous inquiétez pas, on va avoir de l'énergie nucléaire bas carbone qui va permettre de continuer à vivre comme aujourd'hui, sauf que ce sera de l'électricité verte nucléaire. Ce qui est faux. Et ce qui est surtout pas désirable, vu qu'on doit réduire notre consommation de ressources naturelles pour arrêter de l'effondrement de la biodiversité, notamment. Ça demande de se défaire de cet inconscient qui et de cette emprise envers la technique et le fait que l'État va nous sauver. Ensuite, pour réagir à la dimension émotionnelle et la glaciation des relations humaines que je partage complètement, il y a une des pistes qui est certainement peut-être utopiste, mais qui est à amener dans le débat, qui est la défense civile non violente, qui est comment est-ce qu'on apprend à une population à ne pas coopérer avec des forces ennemies qui auraient envahi le pays. Et donc, ça demande aussi un changement de paradigme, parce qu'on se dit qu'on ne va pas se battre, on sait s'envahir, mais par contre, il y aura une résistance tellement importante que l'envahisseur ne pourra pas véritablement prendre le pays. Alors, c'est en débat. Je ne dis pas que c'est la solution, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est discuté, notamment dans le MAN. Je vois un signe sur le côté. C'est aussi comment est-ce qu'on recrée de la solidarité entre les gens, au sein de la population, mais aussi une confiance de ceux qui ont le pouvoir, des gouvernements, envers la population. Parce que former la population à la désobéissance civile, ça, c'est prendre le risque qu'elle utilise cet outil contre le gouvernement lui-même. Donc forcément, c'est pas quelque chose, c'est pas un paradigme d'une force que le gouvernement voudrait, que l'État voudrait mettre en place. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un changement de paradigme complet et que quand Patrick disait s'insurgeait contre le fait qu'on dise alors comment on fait ? Non, en fait, il y a une inversion de la charge de la preuve qui s'est opérée depuis quelques années où nous, on doit justifier que le nucléaire n'est pas une solution Alors qu'en fait, que le nucléaire civil notamment n'est pas une solution, ou que le nucléaire militaire ne sert à rien parce que la dissuasion ne peut pas fonctionner, alors que c'est l'inverse. C'est prouvez-nous comment est-ce que le nucléaire civil va nous permettre de combattre le dérèglement climatique, ce qui est complètement stupide. Voilà, donc il y a ça. Et par rapport à la dimension rationnelle, il y a quand même besoin d'éducation. Parce qu'il y a quand même un manque d'éducation de la population française sur le nucléaire, parce qu'il y a beaucoup de désinformation, de mensonges. Le mensonge fait partie intrinsèquement du développement du nucléaire militaire et du nucléaire civil. On n'a pas expliqué aux populations les risques des essais nucléaires, ni aux militaires qui ont été envoyés au charbon en première ligne. Il y a une ignorance vraiment importante de ce qu'a coûté l'arme nucléaire à l'humanité. Et aussi parce qu'elle a été développée, les explosions nucléaires, les essais nucléaires ont été développés dans un système raciste et colonialiste qui fait que ce sont les populations du Nevada, les populations polynésiennes, algériennes, qui ont été considérées comme des peuples inférieurs sur lesquels on pouvait essayer notre matériel militaire. Donc, ça en vient à quel type d'écologie on veut développer. Ces personnes-là, on a besoin de les visibiliser. Et là, on fait le lien avec la dimension émotionnelle. Parce que c'est quoi l'impact des essais nucléaires ? C'est quoi ? C'est la prévalence des cancers de la thyroïde qui est en augmentation dramatique. Ce sont des leucémies infantiles, ce sont des cancers, l'affaiblissement du système immunitaire, des malformations congénitales, des avortements spontanés, des enfants qui sont morts, nés par malformation du tube neuronal. Ce sont des déficits cognitifs, des retardements mentaux, des atteintes cardiaques, des maladies respiratoires, digestives. La liste est très longue. Et ça, ce sont des populations qui ont été considérées comme inférieures, qui sont en première ligne de ces impacts-là. Donc, les mensonges et les mensonges qui continuent à être véhiculés aujourd'hui, et notamment sur l'impact de ce qu'on appelle les faibles doses, donc c'est-à-dire les populations qui sont à proximité de Tchernobyl, qui sont en Polynésie, etc., qui continuent à manger des éléments qui sont contaminés, notamment au césium 137, elles sont toujours victimes de ces essais nucléaires ou des accidents nucléaires ou des bombes nucléaires. Et aujourd'hui, même l'autorité de sûreté nucléaire et anciennement IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, entretiennent encore le doute sur le fait que des faibles doses auraient un impact sur l'organisme. Alors qu'il est prouvé depuis très longtemps par les études qui ont été menées, et d'ailleurs il y a des études qui ont été menées sur la population polynésienne, sans les en informer. C'est le projet 4.1 des États-Unis. C'est une honte absolue. Mais la France a fait des choses honteuses aussi. Hein. Tout ce qui s'est passé dans la désinformation sur l'impact réel du nucléaire, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens achètent le discours de « Vous inquiétez pas, le nucléaire, c'est propre, c'est sûr, et on ne risque rien avec. » Donc voilà, il y a aussi cette nécessité d'éducation et de direction de qui est-ce qu'on protège et comment est-ce qu'on bâtit un monde où on rejette ce risque et où on aide les victimes, déjà des centaines de milliers de victimes, de l'armement nucléaire et du nucléaire civil.
Je me permets juste d'ajouter un point par rapport à la question que tu évoquais, c'est que l'un des moyens aussi les plus sûrs, c'est que si tu as dans un pays une prise de pouvoir par un parti qui de fait est favorable à un acteur menaçant, suivez mon regard sur ce qui se passerait en France avec l'élection du Rassemblement national, bah, évidemment, à ce moment-là, tu doubles la menace extérieure d'une menace intérieure et c'est beaucoup plus efficace. Donc ça fait aussi le lien avec nos questions très actuelles sur les risques politiques d'extrême droite.
Alors, il y a trois demandes de,
oui,
de
alors,
parole.
De trois... préférence, les personnes qui ne sont pas encore intervenues.
Oui, et il n'y a que des hommes qui prennent la parole sur cette question-là, apparemment. Donc, il faudrait peut-être que... Voilà, j'invite des femmes à prendre la parole. François, et puis après, monsieur. Vas-y, François.
Oui, merci. Je suis arrivé en retard. Donc, si ma question a déjà reçu sa réponse, je vous prie de m'en excuser. Mais une des justifications de continuer à posséder l'arme nucléaire, c'est d'avoir le droit de veto à l'ONU. Est-ce que c'est un argument Oui, les pays qui ont le droit de veto sont tous des pays possédant l'arme nucléaire.
Oui, mais il n'y a pas de cause à effet. Le droit de veto initial a été établi avant que, par exemple, la France n'avait pas l'arme nucléaire au moment où elle est rentrée dans le Conseil de sécurité.
C'est tout de même un argument qu'on entend au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je propose qu'on donne le droit de veto au plus petit pays du monde, je ne sais plus où, un truc, une île du Pacifique qui va être submergée, quelque chose comme ça.
Toujours pas de femme, non.
Merci. Oui, il existe dans l'écologisme un courant sans doute un peu très minoritaire, favorable au nucléaire civil, porté par exemple par l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, présentant le risque nucléaire comme plus civil, plus maîtrisable que le risque climatique. Vous avez expliqué l'écroulement du multilatéralisme nucléaire. C'est pareil pour le multilatéralisme climatique. Hein, il n'est pas en très bonne forme. Et vous avez rappelé le caractère consubstantiel entre les nucléaires civils et militaires. Et donc, quelle est la position de ce courant-là, favorable au nucléaire civil, sur le nucléaire militaire et la dissuasion nucléaire?
Ça, c'est peut-être aussi une question sur laquelle Thierry Salomon, tu pourrais apporter des éclaircissements. Hein.
À ma connaissance, je travaille un peu avec le SHIFT, projet de Jean-Marc Jancovici. À ma connaissance, on est sur l'omerta totale là-dessus. Pas de réponse. Pas de réponse. Et effectivement, quand on les interroge sur cette question-là, ils sont assez secs. Pour avoir travaillé, moi, avec le SHIFT, puisque j'ai fait avec eux un site sur l'ensemble des scénarios énergétiques, c'est assez intéressant de travailler avec l'équipe du SHIFT. Et quand on les interroge un petit peu sérieusement, ils ne sont pas très clairs. Ils ne sont pas très clairs. Donc, effectivement, il y a Jean-Marc Jancovici qui mène l'affaire. Mais sur ces questions-là, il est, franchement, il n'a pas de réponse. Et très mauvaise. Et dernier point, sans être long par rapport à ça, la question, par exemple, du coût de l'accident nucléaire n'est jamais évoquée. Or, il y a une étude qui a été réalisée par l'IRSN, pas publiée, elle a été publiée en Belgique, enfin bon, c'est toute une histoire. L'étude porte sur un accident nucléaire français sur une centrale sur la Loire, à Chinon, et elle montre qu'en cas d'un accident nucléaire, le coût serait de l'ordre de 400 milliards d'euros. 400 milliards d'euros. Alors, là, sans mort, sans rien, enfin, sans mort directe, hein, sans mort directe. C'est-à-dire simplement sur le fait, autour de cette centrale, d'avoir une zone de 20 à 30 kilomètres qui soit contaminée. Un peu à la Fukushima, si vous voulez. Voilà. Sauf que les conséquences sur l'agriculture, sur l'économie, sur le tourisme, évidemment, dans cette région-là, etc., sont absolument considérables. Et donc, c'est derrière aussi des conséquences économiques sur l'emploi. Et, voilà. On a parlé beaucoup de santé, c'est normal, mais il y a aussi ce genre de conséquences. Et ça, c'est pas du tout évoqué. Si vous lisez la fameuse BD « Un monde sans fin », un monde sans fin de nucléaire, d'ailleurs, voilà. C'est pas évoqué. Voilà.
Peut-être je peux compléter. J'ai aussi pas mal, plusieurs fois débattu contre des gens du SHIFT Project, mais en fait, ils ne connaissent pas grand-chose au nucléaire. Et donc, voilà, voilà. Et ensuite, on peut prendre quelques arguments de Jean-Marc Jancovici qui, alors pour lui, il n'y a que les morts qui comptent. les malades, les infirmes handicapés, ça ne compte pas. Alors que c'est forcément une partie importante des impacts du nucléaire, puisque c'est insidieux, c'est un mal qui est, alors qui peut être très aigu s'il y a une irradiation forte d'une personne, mais la contamination ou une irradiation peut avoir des impacts sur le plus long terme. Et aujourd'hui, on ne parle que de cancer. Tout à l'heure, j'ai fait la liste de toutes les maladies que provoque l'exposition à la radioactivité. Donc, il y a l'industrie nucléaire joue sur le fait que ce sont des maladies qui sont multifactorielles et donc il n'y aurait pas de preuves possibles, alors qu'il y a énormément d'études qui ont été faites. Il y a notamment un médecin biélorusse qui s'appelle Bandajewski, Yuri Bandajewski, qui a été emprisonné en Biélorussie parce qu'il a passé sa vie à faire des études, publier des études sur l'impact de la contamination des enfants de la région de Tchernobyl et de documenter l'impact de l'exposition à la radioactivité sur leur santé. Donc on essaye de faire taire, on a essayé de faire taire les gens qui faisaient des études pour documenter l'impact de la radioactivité sur le corps humain. Ensuite, Jean-Marc Jancovici a des arguments absolument indécents, puisque par exemple, on entend « Oh, mais il n'y a pas eu de mort à Fukushima ». Mais c'est vraiment indécent de dire ça pour les victimes. À Fukushima, il y a eu déjà, premièrement, 2000 morts qui sont liées à l'évacuation de la population qui était dans le rayon de 80 km autour de la centrale nucléaire de Fukushima. Donc, au moins 2000. Donc, il y a des suicides, il y a des gens qui ont été abandonnés parce qu'on ne pouvait pas les véhiculer. Il y a des gens qui ont disparu à cause du tsunami et qu'on n'a pas pu chercher suffisamment parce que les gens ont dû partir. Donc, il y a plein il y a des vies broyées, des familles qui sont divisées. Tout ça, c'est balayé d'un revers de la main par quelqu'un qui se dit qui est ingénieur et qui pense avoir une parole qui fait référence et donc ça c'est très grave et on est pour moi c'est la glaciation de ses émotions à lui par rapport à ça. Alors est-ce qu'il n'a pas assez recherché pour se rendre compte de ça ou est-ce qu'il s'en moque parce que pour lui c'est plus facile de parler de mort et de réduire ce débat à des morts instantanées par irradiation. C'est complètement fallacieux et c'est vraiment indécent. Donc je pourrais en dire beaucoup plus mais je vais m'arrêter là. Mais prenons ces arguments un par un et en plus lors d'une audition à l'Assemblée nationale il y a quelques temps, mais ça, il n'y a pas grand monde qui regarde, Jean-Marc Jancovici a dit que lui-même ne croyait pas dans les EPR2, donc les réacteurs que le gouvernement veut construire aujourd'hui, parce que de toute façon, c'est beaucoup trop long à construire et que ce n'est pas cette technologie qu'il faut faire. Donc, voilà. Donc, mais ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Donc lui, il croit dans les réacteurs de quatrième génération, dans la fusion nucléaire, les trucs qui n'existent pas. Voilà. Ça, c'est... Et pourtant, il a réussi à polluer complètement le discours autour du nucléaire, y compris dans une partie de la sphère militante. C'est quand même dommage.
Il nous reste exactement 5 minutes. Donc, soit il y a des questions, mais bref. Dominique, tu voulais intervenir ?
Merci. Ce que je trouverais intéressant, c'est de faire le lien entre vous deux. C'est-à-dire, comment, au niveau international, les forces du droit peuvent être effectives, c'est-à-dire, une fois qu'on a dit il faut que ça soit le droit international, il faut que ça soit la force du droit qui prévale, qui, parmi les nations, a envie de rentrer, effectivement, de faire prévaloir ce droit international pour arrêter le nucléaire, enfin en tout cas pour l'abolition des forces nucléaires, et comment avec les ONG de type effectivement Greenpeace, il peut y avoir cette action complémentaire de la part de la société civile par effectivement une meilleure information, et ça c'est vrai que c'est absolument fondamental, c'est-à-dire que les gens comprennent comprennent les risques, c'est-à-dire comment vous pouvez envisager ce travail collectif, est-ce qu'il est effectif ou pas ?
Juste une toute dernière question, et puis Pauline et Patrick auront le mot de la fin.
Une remarque de pessimisme, parce que je pense que nous n'avons absolument pas la réponse, c'est-à-dire qu'on peut toujours demander aux gens de signer des traités, mais quand 2 ans après, ils s'en lavent les mains, quand il y a des changements au niveau politique qui font que on ne reconnaît pas la signature de son prédécesseur, etc. Je suis désolé, je crois qu'il va falloir qu'on vive avec le nucléaire ou qu'on meure avec.
Michel, je ne te reconnais plus.
Alors, il faut vraiment qu'on conclue. Hein. Donc, Pauline et Patrick.
Je ne prétends pas vous convaincre. Ce qui me gêne, c'est le « nous », monsieur. Le seul « nous » que je connais, c'est le « nous » de tout le vivant sur cette planète. Je ne connais pas d'autres « nous ». Parce que « nous », sinon, c'est « eux ». Et il n'y a pas de « eux » face à des insécurités globales de cette nature. Votre question, elle est sur la sécurité globale, collective, face à des menaces qui, elles, sont également existentielles. Parler du changement climatique, les conflits, une guerre nucléaire. Donc, face à ça, qu'avons-nous ? Si vous remettez en cause le droit international, je parle des normes les plus impératives du droit international qui doivent être exécutées de bonne foi par tous les États. Non, mais alors, donc, si on questionne ça, et c'est questionné, je comprends le sens de votre question, on est dans la guerre totale. Et la guerre totale, elle est déjà là. Et le droit humanitaire est bafoué par les mêmes États qui prétendent qui se revendiquent de devoir le faire respecter en toutes circonstances, y compris la France, y compris à Gaza et dans les territoires occupés, y compris là, et ils s'assoient dessus, de prévenir le crime de génocide. Ils s'assoient dessus, tous, ceux qui parlent de valeurs et de droits. Donc on n'a pas d'alternative à ça. La seule alternative, c'est redonner, sous une forme ou une autre, à un Conseil de sécurité, droit de veto, voilà, la capacité de faire son travail, c'est-à-dire d'assurer la paix et la sécurité internationale, qui est menacée aujourd'hui. Et si on ne croit pas aux forces du droit international, alors remettez les États de côté, parce que c'est eux qui se sont engagés à faire respecter des normes les plus impératives. La Cour internationale de justice est là pour s'assurer que ce soit dit et rappelé, y compris en 1996 dans l'avis consultatif sur l'emploi et la menace d'emploi des armes nucléaires et son illicité, n'est-ce pas ? Donc il faut quand même de temps en temps en revenir au droit, et les États s'engagent en disant, nous, article 1er de 4 conventions de Genève, on a l'obligation impérative de respecter et de faire respecter en toutes circonstances le droit international en général et le droit humanitaire en particulier, qui est le plus essentiel, fondamental des lois d'humanité. Donc moi, je veux bien qu'on puisse remettre en cause ça. Mais si on défend un État de droit, on doit défendre un État de droit global. Il n'y a pas. Lisez Bertrand Badie sur la paix. La question de la paix est absolument essentielle, est absolument considérablement essentielle. Elle ne peut pas faire l'économie du droit. Elle ne peut pas faire l'économie. Et donc, il faut changer, faire un shift de paradigme quand même. Là, c'est une révolution totale. On est dans un monde où il faut faire des révolutions totales. Ces révolutions ne peuvent pas se faire en dehors du droit international, à adapter, à développer, à multiplier. Mais pour tous, moi, je me considère comme un frère des êtres humains de toute la planète et de tout le vivant. Et je pense que ça devrait être je pense que c'est votre cas à tous. Donc, on ne peut pas faire cette économie. Il n'y a pas de nous en dehors des autres. Et il n'y a pas de nous en dehors de tout le vivant. Il n'y a pas de vie possible sans les autres. La biodiversité, elle reste. Et le nucléaire, elle menace tout. Donc, il n'y a pas de... Et puis, s'il y a des attaques, je vais vous dire que Chinon et puis Pierre Latte, etc., ça va être vite détruit aussi. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas faire l'économie d'une opposition frontale sur ces questions-là. Et par rapport au P5, effectivement, Patrick avait raison, le P5 existait avant le TNP. C'est le TNP qui a consacré ceux que les États qui détenaient déjà des armes nucléaires pouvaient continuer à le faire. C'était normalement sûr pendant 25 ans, et en 1995, c'est d'une manière indéfinie, parce que ces États-là, y compris la France, veulent maintenir au nom de je ne sais quoi, des valeurs internationales, de posséder ces armes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais c'est un plaidoyer pour le droit international. Il n'y a pas de paix et de sécurité internationale sans respect des normes que les États se sont engagés formellement, en ayant le caractère le plus impératif qui soit. Mais il n'y a pas d'alternative. On doit défendre le droit international. Et le droit international interdit les armes nucléaires. Voilà.
Alors, il est 16 heures et on donne la parole à quelques minutes à Pauline, parce que sinon il faut qu'on respecte les horaires.
Exactement.
Alors Pauline.
Ouais, très rapidement. Bon, je suis d'accord avec ce que Patrick vient de dire, hein, sur l'évolution, s'interroger sur l'évolution du rôle de l'ONU, en fait, parce que là, on a des guerres, on a un génocide qui se perpétue sous nos yeux. Enfin, il y a une nouvelle configuration des guerres et des conflits au niveau mondial qui demande certainement un ajustement. Et que faire à notre échelle ? Là, on est donc dans un événement qui est organisé par la Fondation de l'écologie politique. Donc, c'est quoi le programme ? Et donc, ce qu'on a à faire, nous, c'est refuser en France le développement du nucléaire civil, avec refuser les discours sur les SMR, les petits réacteurs modulaires, le fait que les EPR2 seraient une solution pour notre avenir. C'est planifier la sortie du nucléaire civil pour protéger la population d'éventuels conflits armés à venir, pour protéger la population du risque nucléaire intrinsèque au nucléaire civil. C'est exiger la sortie de la France d'une manière unilatérale de l'armement nucléaire, parce que c'est que par l'exemplarité qu'on pourra avancer. De toute façon, comme l'a expliqué Patrick, ça ne sert à rien, donc autant en sortir. Et continuer à documenter, à dénoncer et à tenir le cap sur ces arguments sans se dire que c'est difficile de tenir un discours qui soit à contre-courant de celui de l'extrême droite, notamment, qui est à fond pro-nucléaire, encore plus que la droite, dans un délire de gigantisme totalement déconnecté de la réalité. Donc je pense que c'est ça qu'on a à faire de manière assez humble, parce que cette situation est bien plus grande que nous. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va continuer à faire à Greenpeace. Merci beaucoup.
Merci.